journal des auditeurs avec Stéphanie Hartmann sur Africa numéro 1. Africa.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le journal des auditeurs. Nous sommes ensemble en direct pendant 30 minutes pour échanger et débattre autour des sujets qui font l'actualité. Aujourd'hui, dans le journal des auditeurs, les 40 ans d'intégration en Afrique de l'Ouest. La communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, célèbre cette année ses 40 années d'existence. L'occasion pour l'organisation sous-régionale de faire son bilan tant sur le plan politique qu'économique. Alors, quel regard portez-vous sur l'action de la CEDEAO 40 ans après sa création? Nous en parlerons avec le docteur Yves Ekwe Amaizo, il est consultant et président du think tank Afrocentricity. Mais avant de s'intéresser à la CEDEAO, comme de tradition, direction le répondeur d'Africa numéro 1 pour écouter quelques-uns des nombreux messages que vous nous avez laissés.
Le JDA, c'est sur Africa numéro 1.
Chers amis des JDA, bonjour. À ce moment où je vous parle, le ciel m'est tombé sur la tête. J'aimerais savoir, vous êtes combien qui ont suivi les journaux de 20 heures de France 2, l'histoire de Pascaline Bongo. Mes chers frères africains, l'homme noir n'a pas de cœur. Peut-être il fonctionne avec un autre esprit, son cœur est ailleurs. C'est du jamais vu. Pascaline Bongo, chers africains, la source de nos malheurs, c'est d'abord nous-mêmes, l'homme noir. L'homme noir, quand il a le pouvoir, il sait quoi au-dessus de tout, il est plus noir. Il a changé de couleur, il a changé de forme. Je vous remercie, Max Essé de la région parisienne.
Mes auditeurs, bonjour. J'appelle par rapport au SPI en Côte d'Ivoire. SPI. Surtout à tous les militants du SPI en Côte d'Ivoire. Je voudrais leur dire que, sans M. Afin Guessant, le SPI est un parti qui est mort. D'après les Ivoiriens, il est cadavéré. Donc, si M. Afin Guessant entend ce message, qu'il laisse le SPI et lui-même qu'il se crée un parti politique, et je serai le premier apôtre ivoirien qui va adhérer à son parti. Parce que Afin était un militant très intelligent. Il sait parler, il sait comment convaincre les gens. Mais apparemment, quand on voit la télévision un peu partout, à la radio, les militants du FPI le considèrent comme quelqu'un qui ne connaît rien. Je lui demande de laisser ce parti et de se créer lui-même son propre parti politique. Et il va voir qu'il va avoir des gens qui seront derrière lui. Je vous remercie.
Bonjour, Madame Stéphanie Hartmann. Afin Guessant est le président légal du Front populaire ivoirien. Dehors la loi, ce sont produit dans le village de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo pour soi-disant tenir une convention. Que peut-on attendre de ce hors-la-loi? Des gens qui vont s'amuser dans un village? Et alors on prétend que oui, l'ancien président Laurent Gbagbo est populaire. Dans ce cas, dès la semaine prochaine, j'irai dans mon village tenir un meeting et on dira que Idriss est populaire. Donc, arrêtez de dire du n'importe quoi sur notre grande radio Africa numéro 1. Afin Guessant est le président légal. Idriss, bonne journée.
Bonjour, monsieur JDA. Je frappe à la porte de monsieur Issa Yatou. Monsieur Issa Yatou, ouvre-moi la porte. Si vous ne voulez pas ouvrir la porte, vous m'écoutez. Dans votre bureau, là, vous m'écoutez. Vous avez eu la force de condamner le Maroc. 2 ans, parce qu'ils n'ont pas organisé la Coupe d'Afrique à cause de maladie Ebola. Mais je veux savoir, où est l'affaire du petit Camerounais en actuel en Algérie? On ne t'a pas vu crier. Il faut crier maintenant. Il faut que tu dises où est l'affaire. Tu n'en parles pas trop. On tue un joueur Camerounais africain en Algérie, dans le vestiaire, tout le monde le sait. C'est un assassinat, c'est un crime. Et du bout des lèvres, tu parles de l'affaire. Quand c'est les autres, ils hausse le ton. Quand c'est ton propre compatriote qu'ils ont tué en Algérie, là, tu ne parles pas trop, hein. Voilà. Où est l'affaire? Où ça naît? Quelle sanction tu as pris contre l'Algérie? Merci. C'est pas un mouton, le petit Camerounais qui est mort. Au revoir.
Oui, bonjour amis de JDA, c'est Max Cécile de la région parisienne. J'interviens à propos de ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Cette région devient une région oubliée dès la communauté internationale. Je voudrais faire un petit rappel. Toutes les guerres qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo ont des origines étrangères. D'abord, c'est le génocide rwandais qui a fait 900 morts, qui a été importé en République démocratique du Congo et qui a causé une guerre qui nous a coûté plus de 5 millions de nos compatriotes. Et tous ces gens qui ont traversé la frontière pour le Congo, c'était à la demande des Nations Unies. Et encore aujourd'hui, 7000 Burundais ont fui leur pays. La direction, c'est où? C'est toujours l'est de la République démocratique du Congo. Une région qui est déjà très chaude. Mais moi, je pense bien que les Congolais, ils doivent prendre conscience de la présence de la communauté internationale, de la MONUSCO en République démocratique du Congo. Je vous remercie.
Bonjour Africa numéro 1, c'est M. Koulibaly et j'appelle pour féliciter l'armée malienne qui a mis les rébellions et mené là en déroute les ennemis de la paix qui nous emmerdent. Franchement, merci beaucoup l'armée malienne. On va remercier tous les soutiens, tous les pays qui ont soutenu le Mali pour la paix. Nous les Maliens, nous sommes pour la paix. On n'est pas pour la guerre. On en a marre de ces groupes et rebelles qui sont en train de nous emmerder. Il faut le dire ça haut fort. Nous, les Maliens, franchement, on veut de la paix. On veut de la paix. Merci encore, Africa numéro 1, d'avoir nous donné des paroles. Félicitations à l'armée malienne. Au revoir.
Prenez la parole dans le JDA sur Africa numéro 1.
Africa.
Merci à tous pour vos messages. Vous pouvez désormais intervenir en direct dans le journal des auditeurs en nous appelant au 01 55 07 58 00. Aujourd'hui, dans le JDA, 40 ans d'intégration en Afrique de l'Ouest. Et nous en parlons avec le docteur Ivekwe Amaizo, consultant et président du think tank Afrocentricity. Ivekwe Amaizo, bonjour.
Bonjour madame.
Merci d'être avec nous, Ivekwe Amaizo. Alors, première question. La CDAO fêtera officiellement ses 40 années d'existence le 28 mai prochain. L'organisation sous-régionale a donc été créée en 1975. Elle compte aujourd'hui 15 États membres et les ressortissants de ces États membres disposent d'un passeport CDAO qui leur permet de circuler librement. Première question, Ivekwe Amaizo, peut-on dire que la CDAO est l'organisation régionale africaine la plus aboutie?
La plus aboutie, non, puisque l'Afrique de l'Est fait beaucoup mieux que nous. Ils ont même des téléphones complètement intégrés. Vous avez une seule puce et vous pouvez circuler et parler dans toute la région au même tarif, ce qui n'est pas le cas du tout en Afrique de l'Ouest. Et au niveau des paiements financiers, ils ont des paiements par téléphone mobile, ce que nous n'avons pas dans l'Afrique de l'Ouest. Bon, je pourrais vous donner beaucoup d'exemples.
Donc l'IGAD fait mieux en matière d'intégration régionale?
Oui, c'est l'Afrique de l'Est carrément, la partie avec le Kenya, l'Ouganda, etc. L'Afrique australe fait beaucoup de progrès, mais ils se sont agrandis avec le Congo, etc., ce qui a réduit leur moyenne. En tout cas, la CDAO fait beaucoup mieux que l'Afrique centrale.
C'est très clair. Et sur le plan politique, la CDAO a-t-elle du mal à jouer son rôle dans la prévention des conflits? On l'a vu avec le Mali, où la CDAO n'a pas évité la descente.
Alors là, vous posez deux problèmes en même temps, le côté militaire et donc la force de sécurité, et puis le côté politique. Donc on est obligé de revenir à la représentation qu'est la CDAO. Si à la CDAO, à la tête de la CDAO, vous avez des gens qui sont élus représentant les populations, certainement que la CDAO aurait mieux fait pour sécuriser d'abord ses propres frontières et bien sûr tout ce qui se passe au Mali ou ailleurs. Seulement voilà, c'est que ceux qui sont à la tête des États africains, beaucoup d'autocrates encore aujourd'hui, beaucoup qui n'ont pas été élus ou ont été élus avec des contre-vérités des urnes comme ça vient de se passer au Togo, vous avez donc ces gens qui envoient leurs représentants au niveau de la CDAO. Du coup, la CDAO reflète un peu ces gens-là. Ce n'est pas une CDAO des peuples, c'est une CDAO des chefs d'État, des dirigeants qui bien sûr tire avantage ou pas de l'opposition. Et du coup, le fait de s'endetter beaucoup à gauche et à droite, et essentiellement avec des pays ex-coloniaux, ils ont tendance à aller utiliser justement des forces armées ou devenir des suppléants ou des supplétifs ou des soutiens à ces armées extérieures. Donc très souvent, au lieu de résoudre les problèmes africains, ils sont en fait plutôt en train d'aller résoudre des problèmes plus ou moins créés par l'extérieur, et viennent en fait appuyer ces extérieurs. D'ailleurs, sur le plan budgétaire, c'est souvent une bonne partie est financée de l'extérieur. Sur le plan des équipements, ne regardez que les bottes et les armements, ça vient de l'extérieur, parce qu'on fabrique pas d'armes en Afrique, il faut le rappeler quand même. Et troisièmement, ben, quand on a des morts, personne n'en parle, on nous parle que voilà, ceux qui sont morts, qui sont souvent des Occidentaux.
C'est effectivement ce que nous dit un auditeur sur facebook.com/journaldesauditeurs. Ici, il y a Kama Ahmad Dabo qui nous dit pourquoi les Occidentaux financent-ils près de 60% la CEDEAO. Il nous l'ajoute, la CEDEAO, c'est quoi cette institution? 60% du financement vient de l'extérieur. Iveco Amaizo, vous confirmez?
Non, je ne veux pas, pas confirmer comme ça, parce qu'il y a deux choses. Il y a bien sûr le financement, disons, des activités normales, le paiement des salaires, des fonctionnaires, etc. Et la CEDEAO, sur ce plan, est un modèle. C'est-à-dire que la CEDEAO a mis une taxe sur la plupart des importations, notamment des importations de produits de riches, en fait. Mmh. Et cette partie-là va financer ce que j'appelle, moi, les dépenses, disons, régaliennes. Bon, maintenant, vous avez les projets. Beaucoup de ces projets sont identifiés de manière séparée, y compris d'ailleurs le côté armement ou le côté militaire qu'on vient de dire. Et ceux-là, par définition, très souvent, la CEDEAO et les pays africains en général ont toujours demandé d'ailleurs que les Occidentaux envoient l'argent aux autorités africaines, et les autorités africaines s'organisent pour justement mettre leur armée. Mais ça a toujours été bloqué. Sachez d'ailleurs qu'à ce point-là, l'Union africaine avait dit non, à la première fois, d'ailleurs toute l'Afrique a dit non, à la force Africom qui était en fait l'armée américaine qui devait stationner en Afrique pour protéger les Africains. Et les Africains ont dit non, pourquoi nous ne pourrons pas nous-mêmes nous protéger? Nous-mêmes, donnez-nous votre argent et les équipements, nous ferons la suite. Là où le bas blesse, c'est que non, il veut pour ces projets-là pouvoir d'abord vendre leurs équipements. Je vous rappelle que tout ça, c'est commercial. On veut d'abord vendre des équipements que nous ne produisons pas. Et du coup, la meilleure façon de tromper tout le monde, y compris les gens qui paient des impôts en France, aux États-Unis ou ailleurs, c'est de pouvoir le justifier sur le budget français ou américain ou allemand. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On dit que c'est une aide qui va à la CEDEAO, comme vous venez de le dire. Et dans ce cas-là, ce n'est pas 60%. Dans le cas de l'Union africaine, on va jusqu'à 95% des projets qui sont financés par l'Union européenne.
Notamment de l'architecture de paix et de sécurité, en tout cas pour l'Union africaine. Alors, sur le plan économique, Iveco Amaizo, selon le FMI, en 2012, le PIB global des États membres de la CEDEAO s'est élevé à environ 565 milliards de dollars, ce qui en faisait la 25e puissance économique du monde, nous dit le FMI. Alors, la mise en place d'un parmi les acquis de la CEDEAO, on peut noter la mise en place d'un marché commun, la libre circulation des personnes et des biens et l'adoption d'un tarif extérieur commun, ainsi que l'harmonisation d'une réglementation douanière commune. Iveco Amaizo, est-ce que la prochaine étape vers l'intégration économique sera une monnaie commune?
Alors, c'est une très bonne question que je coupe encore en deux. La première partie, quand vous parlez de marché commun, d'intégration douanière, etc., tout ça c'est très beau sur papier. Quand vous prenez l'avion, effectivement, vous pouvez aller d'un endroit à l'autre. Quand vous prenez la voiture, c'est pas du tout la même chose, parce que le douanier, très souvent, n'est même pas au courant de ces textes-là, et lui ne se gêne pas pour vous demander un peu d'argent, pour ne pas dire beaucoup d'argent, que vous glissez dans le passeport de manière discrète pour pouvoir passer d'une frontière vers l'autre. Sans compter les stops que vous aurez dans les pays mêmes. C'est-à-dire qu'il y a quelques militaires non républicains qui s'organisent aussi pour vous ponctionner. Il faut le dire tout haut parce que c'est la réalité et d'ailleurs qui bloque le commerce intra-régional qui est très très faible. Nous sommes à 11 ou 12% alors que l'Union européenne est à 68% par exemple. Donc, cette histoire de marché commun, oui, sur papier ça avance mieux qu'ailleurs, mais dans la pratique ça bloque. D'ailleurs, concrètement, ça veut dire quoi? Il faut aller plus loin. Est-ce qu'un ministre togolais peut être ministre au Sénégal? Est-ce qu'un ministre ivoirien peut être ministre au Nigeria? C'est ça l'intégration. On passe par l'harmonisation, demain c'est ça. Sinon, qu'est-ce que vous avez? Vous avez des guerres partout, l'ivoirité, la togolité, voilà, des histoires d'ethnie qui recommencent. Donc, on n'a pas fait beaucoup de progrès sur ce plan-là. Sur le deuxième volet de votre question qui concerne la monnaie, là nous avons un problème. C'est un serpent de mer. Ça fait des années, depuis 1963, que nous avons dit, et les chefs d'État africains de 63 ont dit qu'ils veulent créer quoi? La Banque africaine de développement, la Banque centrale africaine, pour les banques centrales, la monnaie commune justement. Aller vers cette monnaie commune, que certains appellent unique. Aller vers ce qu'ils appellent la banque de l'investissement africaine. Et le fonds monétaire africain. Vous avez parlé du FMI qui donne des données. Nous n'avons pas notre fonds monétaire africain. Ces quatre institutions avaient été prévues. Qu'est-ce qu'on a créé? La Banque africaine de développement. Les trois autres, on les a mis au rancard. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme on n'arrivait pas à se mettre d'accord, on a voulu faire ça au niveau sous-régional. Et sur ce plan-là, la CEDEAO a fait beaucoup mieux. Nous avons la banque d'investissement qui est à son siège à Lomé. Nous avons une banque de développement qui est à Lomé, la BOAD. Mais les autres pays, les autres régions n'ont pas toujours le même niveau de développement. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que ce fonds monétaire africain, dont le siège est déjà fixé à Yaoundé, la Banque centrale africaine, dont le siège est fixé à Abuja, la banque commerciale, la banque d'investissement, dont le siège est fixé à Tripoli, rendez compte, à Tripoli, sous le colonel Kadhafi, qui avait d'ailleurs mis le budget, et tout a été mis par terre, entre autres, à cause de cela, mais les États africains ont refusé de prendre l'argent de Kadhafi pour pouvoir installer tout ça et pour fonctionner. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est ces trois institutions, nous en parlons, nous avons signé des accords que nous allons démarrer, mais on démarre jamais. Le capital qui était important, ben on l'a réduit au minimum, ça veut dire quoi? Prenons le Fonds monétaire africain par exemple. Si un seul pays, un tout petit pays, a un problème d'endettement budgétaire et demande à ce fonds de le financer, le fonds pourrait éventuellement le faire, mais le fonds est par terre si le pays ne rembourse pas. Donc je résume tout. Si les pays tels que nous sommes dans la CEDEAO aujourd'hui, les 15 pays d'ailleurs, il faut le rappeler, disent que, écoutez, moi je ne peux pas rembourser parce que je ne peux pas, quelles que soient les raisons, est-ce que vous pensez qu'un pays, prenons le Nigeria le plus riche du coin, va continuer éternellement à payer les dettes de quelqu'un qui ne veut pas rembourser ou qui ne peut pas rembourser?
Pourquoi on comprenne bien, Yves Maïso, c'est ce que j'allais dire, voilà, vous avez fait, vous avez été plus rapide que moi, c'est le parallèle que vous faites, on peut le faire avec l'Allemagne qui paye finalement les dette de la Grèce, c'est bien ce que vous nous dites.
Bah disons, je n'allais pas dire directement l'Allemagne, parce que l'Allemagne n'est pas toute seule. La France est impliquée largement dessus, et beaucoup de secteurs privés, parce qu'en fait, on a transformé une dette privée vers une dette publique, ce qui est aussi une autre forme de vol que les Occidentaux n'ont pas encore vu entre eux. D'ailleurs, ils en paieront le prix à tôt ou tard. Mais revenons à l'Afrique. Le problème aujourd'hui, c'est quoi? C'est que quand vous connaissez, vous devez vous organiser pour avoir ce qu'on appelle d'abord l'harmonisation, une convergence et demain l'unité. Quand on dit l'unité africaine, c'est pas des mots en l'air. Il faut que demain matin, le passeport togolais, ivoirien ou nigérien disparaisse pour devenir le passeport africain. Pour ne pas dire panafricain, parce que celui qui est à Haïti, en Jamaïque, il est bien africain. Et je viens de découvrir que nous avons toute une communauté en Australie, nous avons toute une communauté en Sri Lanka. C'est quand même extraordinaire tout ceci. Donc il faudrait arriver vers cette panafricanisme. Sur papier, c'est extraordinaire. Tout le monde crie, fait du bruit. Mais en réalité, nous en sommes très loin. Et ça revient à la base. Il faut que les gens soient élus démocratiquement pour aller vers ça. Sinon, ceux qui sont élus par la force des armes ou les militaires, écoutez, ils vont organiser une intégration à leur image.
Effectivement, en effet, hein, besoin d'une démocratie et puis aussi des égoïsmes nationaux. Restez avec nous, Yves Ekwe Amaizo. On va donner tout de suite la parole aux auditeurs qui sont nombreux et patients à vous, et qui souhaitent intervenir. On écoute tout de suite Claudel. Claudel, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, Claudel. Alors vous faites un bilan négatif de la CEDEAO.
Totalement. Je voudrais au passage saluer votre invité.
Yves Ekwe Amaizo.
Oui, honnêtement, franchement, il a brossé le tableau comme tel que je le pensais. Mm-hmm. Voilà, c'est une excellente analyse et c'est la réalité qu'il vient de décrire. Voilà, de un, moi je pense, la CEDEAO, c'est au lieu qu'elle soit la communauté, sinon des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est plutôt un collectif des chefs d'État. Mmh. Voilà. C'est un collectif de chefs d'État qui se retrouvent chaque année pour faire leur bilan, ainsi de suite, pour essayer de manger ensemble. Et puis le reste, la population, ils n'y pensent pas. Vous voyez, voilà une communauté, une zone qui a à elle seule plus de 70% de sa population qui a moins de 30 ans. Mmh. Moins de 30 ans. Et cette jeunesse-là, elle est au chômage, madame. Elle est au chômage. Dans tous les pays de la sous-région concernant la CEDEAO, allez-y voir. Vous verrez qu'il y a plus de 70% de la population qui est beaucoup plus jeune et qui est au chômage. Ça, c'est un. La CEDEAO, à l'origine, comme on l'a dit, comme c'est exactement expliqué, communauté des États, communauté plutôt...
économique.
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons combien de monnaies dans cette zone? Nous avons le CFA, qui n'a aucune valeur. Quand on sort de cette zone-là, allez-y au Maroc, simplement, allez-y dans d'autres pays, cette monnaie-là n'a aucune valeur. Ici en France, d'ailleurs, là, on n'en parle pas du tout. Nous avons sur le plan politique des pays qui, individuellement, négocient avec la superpuissance, disons, le pays colonisateur qui est la France. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que dans chacun ses lèvres, il va négocier pour son propre compte. Comment faire en sorte qu'il puisse rester longtemps au pouvoir? Voilà ce qui intéresse individuellement chaque chef d'État dans cette sous-région.
C'est ce que disait Yves Ekwe Amaizo sur la nécessaire démocratie des États membres.
Voilà 40 ans, madame, 40 ans dans la vie d'une nation. Je pense que 40 ans, c'est l'âge qui nous permet de faire le bilan. Et c'est effectivement, vous avez raison de faire le bilan au niveau de la CEDEAO. Mais c'est entièrement négatif. On a vu la crise dans cette région. Quel a été l'apport de cette CEDEAO? Mais nul! Il a fallu que des États encore hyper puissants, Europe, ainsi de suite, se mobilisent pour que l'Afrique commence à réagir. Voilà des problèmes réels que rencontre cette CEDEAO. Donc moi, je pense que nous n'y sommes pas encore. Et comme l'a dit votre invité, tant que nous n'aurons pas des pays démocratiquement importants, sinon indépendants vis-à-vis de cette superpuissance française, il n'y aura pas de communauté économique des États-Unis. C'est impossible qu'on ait une CEDEAO qui peut fonctionner comme il faut le faire. Donc, en résumé, qu'est-ce que je dis? Nous avons, effectivement, c'était une bonne idée, ceux qui ont mis cette sous-région en place à travers les différents blocs qu'on a mis en place dans l'Afrique. C'est des super. Mais il faut que ces chefs d'État aillent beaucoup plus loin. Disons que, dans un premier temps, il faut qu'on retrouve des pays démocratiques. C'est-à-dire que il faut que la démocratie s'exerce dans ces pays. Vous verrez que, comme sur de l'eau sur, sur des roulettes, vous verrez que cette CEDEAO va fonctionner. On a l'exemple du Togo. La CEDEAO qui a dépêché deux chefs d'État qui sont allés négocier avant même que le résultat ne soit fourni. Vous voyez, c'est quand on a ça. Et on a encore ce même problème. On a au Mali où la CEDEAO a eu des difficultés pour aller intervenir. Parce que, simplement, ces pays n'ont pas de moyens. Voilà. Ces pays comptent sur la France. Et bien la France, on dit les pays ont des intérêts, pas d'amis. La France joue en Côte d'Ivoire, ce qui l'intéresse. La France joue, comment on appelle ça, au Togo, ce qui l'intéresse.
La France a des intérêts et pas d'amis. Ce sera votre mot de la fin, Claudel. Merci beaucoup de votre intervention. On va revenir avec le docteur Iveco Amaizo dans quelques instants sur ces questions de démocratie au sein de la CEDEAO et de processus démocratique. Avant cela, on écoute Yaya Sawadogo. Bonjour Yaya Sawadogo. Ah, Yaya, est-ce que vous nous entendez, Yaya?
Oui, je vous entends.
Bon, on vous écoute. Alors, quel bilan vous faites de la CEDEAO?
Ah ben, écoutez, négatif sur tous les plans, quoi. Toutes ces institutions sont vraiment négatives. Mais mon appel d'abord, c'est pour vous remercier. Et surtout, remercier d'avoir invité M. Yves Amaizo. C'est vrai que depuis toute la semaine, je pensais à lui.
Oui.
Voilà, je pensais à lui, et les auditeurs l'ont entendu, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue de bois. C'est-à-dire, il joue franc jeu. Et le problème de nous, les Africains, madame, il faut que les frères essayent quand même de se référer toujours à leur histoire. Comment ils en sont arrivés là? Nos premiers pères du panafricanisme, sincèrement, c'est ceux-là, on les avait pas tués, madame. Aujourd'hui, on était devant l'Occident. Vous êtes d'accord avec moi? On était au même niveau que la Chine à l'époque, parce que les jeunes qui nous entendent, ils ne savent pas beaucoup de leur histoire. On était au même niveau que la Chine. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, nous sommes toujours au trou et que la Chine, l'Inde, sont en train d'émerger? Et nous sommes que des vendeurs de matières premières, n'est-ce pas, madame? Ça, il faut le dire aux Africains. On n'a rien à voir avec l'Occident. L'Occident n'est pas notre modèle. On est des vendeurs de matières premières. Mais comment ça se fait que moi, Kadhafi vend des matières premières, arrive à développer son pays, l'Arabie Saoudite vend des matières premières, le Qatar vend des matières premières, sont des références, sont les miroirs aujourd'hui du monde moderne. Et nous qui avons tout depuis des siècles, on est comme ça derrière nos enfants. Regardez nos populations, comment ils sont. Ils sont vraiment, je sais même pas comment, c'est pire que la misère. Alors nous le peuple, surtout la diaspora, essayez de vous organiser, parce que ça peut plus durer. Organisez vos femmes, c'est pas que je ne sais pas lire, moi je connais pas, non, vous êtes dans la poule, organisez-vous. Thomas Sankara vous a tout dit, mais qu'est-ce que vous voulez d'autre?
Yaya, je vois votre nom. Vous êtes peut-être d'origine burkinabé, non? Yaya?
Oui.
Voilà, je me permets en voyant votre nom. Et quel regard portez-vous justement sur l'action de la CEDEAO suite aux événements, à l'insurrection au Burkina Faso en octobre dernier? Est-ce que vous pensez que la CEDEAO a été à la hauteur?
Madame, je vous dis pas du tout. Puisque toutes ces institutions, s'il vous plaît, je vais le dire aux auditeurs, sont à la solde de l'Union européenne aujourd'hui. Toutes les décisions qu'ils vont prendre, c'est l'Union européenne qui décide. Alors, ce qui a été fait au Burkina Faso, depuis le début, moi je n'ai pas intervenu parce que je savais que c'était peine perdue, parce que ça allait être récupéré, puisque le peuple n'est pas, comment dire ça, je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas cultivés ou ils ne sont pas assez informés, comme l'a dit Thomas Sankara. Donc c'est facile de les manipuler. Dès que les militaires ont mis les pieds, ils disent, ben voilà, c'est une récupération, donc ça ne sert à rien de perdre le temps. Donc aujourd'hui, l'Union africaine, comme les Africains disent, l'Union africaine, elle est à la solde de l'Union européenne. Ils ne peuvent rien décider. Tout ce qu'ils vont décider, ils envoient le document à l'Union européenne, c'est elle qui décide comment ils doivent marcher. Il faut que les Africains le savent.
Merci.
Et toutes ces institutions, s'il vous plaît, toutes ces institutions, comme ils appellent souvent le FMI, la Banque mondiale, mais c'est les institutions qui sont là pour te maintenir dans l'esclavage. Pour terminer, madame, s'il vous plaît, à Yves, lui, le sait. Je vais le conseiller aux auditeurs, à vous, madame aussi, pour le faire, pour que tout le monde le sache. Un petit documentaire, John Perkins. Vous tapez juste le nom John Perkins, les confessions d'un assassin économique. Vous allez voir comment la Banque mondiale, le FMI, l'ONU, et tout ça, comment ils maintiennent les peuples dans la...
Merci beaucoup Yaya de votre intervention. On a bien entendu, on va tous aller voir le John Perkins, les confessions d'un assassin économique, si j'ai bien compris. Yves Ekwe à Maïso, plusieurs questions dans les interventions de nos auditeurs. Je voudrais revenir sur la question de démocratie. C'est vrai que hormis le Togo où Fandasimbe vient d'être élu pour un troisième mandat, est-ce qu'il ne faut pas reconnaître qu'en termes de démocratie, il y a des réussites dans la zone CEDEAO et que hormis le Togo, tous les pays membres de la CEDEAO ont connu l'alternance?
Alors, c'est vrai que l'alternance progresse, mais je ne peux pas vous dire que c'est très bon en Guinée, je ne peux pas vous dire que c'est très bon au Togo. Le cas n'est d'ailleurs pas terminé, et je ne peux pas dire non plus que la Côte d'Ivoire telle que c'est aujourd'hui, c'est l'idéal. On n'a pas retrouvé finalement un équilibre des forces plus ou moins gentil. C'est-à-dire qu'il y a un problème de fond, c'est-à-dire qu'il y a toujours ce problème de vengeance. Et il faut dépasser les notions d'ethnie, il faut dépasser les notions de des références avec l'Occident, il faut arriver à trouver une identité, voire une fonction africaine. C'est pour ça que nous parlons d'afrocentricité. On ne réfléchit pas pour le peuple africain. On ne réfléchit pas pour les 40-50% de ces jeunes qui ne vont pas trouver du travail parce que nous avons mal organisé notre structure. Est-ce que vous savez que dans cette zone, intégration régionale, d'ailleurs, un anniversaire, c'est pas une fête, hein. Il y a que les Africains qui croient que l'anniversaire, c'est une fête. Il y a pas de fête du tout. Ces 50 personnes sont au chômage, des jeunes, ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a choisi de ne pas transformer 80% du cacao que nous produisons en Afrique. Nous n'en transformons que 2%. 2%. Vous pouvez même pas acheter le lacet de votre soulier. C'est ça que ça veut dire concrètement. Alors, comment vous allez donner du travail à des gens? Maintenant, il faut mettre l'industrie. L'industrie, c'est tout un processus. On a refusé de financer l'industrie. La Banque africaine de développement a refusé de financer l'industrie. La plupart de nos banques ont refusé de le financer. Alors, bien sûr, on met tout sous le dos du FMI, la Banque mondiale. Bien sûr, mais c'est nous qui proposons d'abord. Si on ne propose pas de faire l'industrialisation, ça ne peut pas fonctionner. Donc, ça revient au chef d'État qui a une certaine vision de s'organiser. Pourquoi d'ailleurs il n'y a pas l'industrie? Parce que c'est un peu plus compliqué que de vendre. Quand vous vendez et que vous prenez 10, 20, 30%, on connaît les ministres qui prennent 10, 20% sur toutes les commissions. C'est ça la corruption africaine. C'est de là que ça part.
En effet, la volonté et les politiques comme l'alpha et l'oméga de tout. Yves Ekwe à Maïso, il ne reste que quelques minutes. Sur le plan économique, justement, la CEDEAO, sait-elle défendre les intérêts de ses États membres sur le plan économique? Je pense notamment aux négociations qu'il y a eu avec l'Union européenne pour les accords ACP-APE, les accords de partenariat économique.
Là, je suis vraiment négatif et là, je poursuis, je soutiens Monsieur Yaya, je soutiens Monsieur Claudel et tous ceux qui ont parlé avant. Écoutez, on a eu les accords de Yaoundé, on a eu l'accord de Lomé, on a eu les accords de Cotonou, on a eu maintenant les accords de partenariat économique. Est-ce que vous savez que nous n'avons pas bougé entre 2 ou 3% de commerce avec l'Union européenne? On n'a pas bougé du tout. Qu'est-ce que nous vendons vers l'Union européenne? Toute une liste de produits dans lesquels il ne faut surtout pas transformer. Et quand vous essayez de faire quelque chose, alors là, il y a tout un accord qui vient, et tarifs non tarifés, etc., qui vous bloque. Nous avons 1200 types de bananes. On n'arrive même pas à passer 2 ou 300 en Europe. Il y a un problème de fond parce que nous n'avons pas ce qu'on appelle la marge économique et donc la marge politique pour prendre des décisions pour faire des bananes chez nous et les importer. Quand je prends banane, c'est pareil pour la banane plantain, c'est pareil pour les pommes frites, etc. Pourquoi vous ne mangez pas des bananes plantain dans les McDonald's? Posez-vous la question. C'est que les chefs d'État africains n'ont pas imposé les normes comme quoi on peut vendre ce produit-là dans toutes les McDonald's du monde. Donc il y a un problème de fond. Donc, excusez-moi, l'accord de partenariat économique ne marche pas et ne marchera pas. Pourquoi ? Parce que ça a été conçu uniquement pour soutenir l'Europe, en fait. Donc l'Europe a besoin effectivement des matières premières café, cacao, mais pas de la transformation. Ils veulent transformer eux-mêmes pour créer l'emploi là-bas. Et d'ailleurs, ils ont fait une erreur stratégique en allant tout investir dans l'industrie ou en Chine, dans les pays asiatiques. D'ailleurs, c'est pour ça que la Chine les met par terre aujourd'hui. Et toute la dette européenne, c'est la Chine qui l'achète. Et quand la Chine en a marre de cette dette, qu'est-ce qu'elle vient ? Elle revient en France acheter le magasin Printemps ou le club de football que vous avez et que tout le monde applaudit. Mais quand on applaudit et qu'on va à Paris Saint-Germain, on donne une partie de l'argent à la Chine. On aurait pu le donner à l'Afrique si l'Afrique avait joué le jeu et si les chefs d'État avaient joué le jeu. C'est très important de comprendre tous ces mécanismes économiques. Sinon, vous ne maîtrisez pas qu'est-ce qui se passe au fond. Alors, l'histoire du collectif qu'avait dit monsieur, je crois, Claudel, il a raison, ça s'appelait le syndicat des chefs d'État. Je ne veux pas revenir dessus, on le connaît. Mais ce qui est beaucoup plus grave, si vous voulez, c'est la culture qui manque dans toute cette intégration. On ne peut pas continuer à avoir la culture francophone ou anglophone ou lusophone, etc. Il y a une culture africaine, il faut retrouver cette identité africaine. Et nous l'avons carrément mis de côté. Où sont-ils les films africains qui montrent comment l'Africain est réellement ? C'est pour ça d'ailleurs que le Niger se développe avec tout son côté film. Bien sûr, c'est un peu encore au niveau de la pâquerette. Mais demain, ça va commencer à s'améliorer. Il faut que l'Africain reconnaisse que lui-même, il est quelque chose, qu'il vaut quelque chose, qu'il arrête de se regarder dans les yeux de l'autre. Il est le berceau de l'humanité. Et c'est cette fondement-là qui est oubliée et que nos chefs d'État, par définition, omnibilés par l'argent et souvent par la corruption, ont complètement oublié.
Dernière question, Yveko Amaizo. Est-ce que vous évoquiez Nollywood, est-ce que le Nigeria pourrait être l'un des moteurs principaux de cette intégration économique et politique africaine ?
C'est une très bonne question. Le Niger est déjà un moteur. Mmh. Le malheur, c'est qu'il est un moteur pour lui-même. C'est comme la Côte d'Ivoire dans le temps de Houphouët Boigny. Ce sont des grands géants économiques qui ne font que absorber ce dont ils ont besoin dans la zone.
Ils sont égoïstes, que leurs intérêts passent avant ceux de leurs voisins.
Bien sûr. C'était pareil avec l'Allemagne. Écoutez, regardez comment on a fait l'euro. L'essentiel de l'argent est parti chez les Allemands. Hein. En gros, vous savez, l'euro, c'est 60% de marque. Hein. Donc, faut pas vous tromper sur le fond. C'est le plus fort qui gagne, soit parce qu'il a les armes, soit parce qu'il a la valeur économique. Maintenant, nous sommes en train d'expérimenter une nouvelle chose. Voilà un Nigérien avec une démocratie, quelqu'un qui est plutôt venu de la pauvreté, donc c'était pas quelqu'un qui a volé en tant que tel au départ, et qui commence à penser autrement. Vous avez peut-être un candidat qui, lui, défend l'industrie pour la première fois à la Banque africaine de développement. Donc si ces changements ont lieu, si vous avez des individus qui pensent pour les Africains, qui pensent créer de l'emploi à partir de l'industrie, et non pas aller faire de l'argent à la bourse de New York ou à la bourse d'Abidjan, vous allez voir que en moins de 5, 10, 15 ans, ça va aller vite. La Chine a mis 22-25 ans. Hein. 22-25 ans. C'est pas les 40 ans où on n'a rien foutu dans la CDAO. Attention, ça va très très vite. Aller beaucoup plus loin. La BOAD ou les banques d'investissement locales, elles passent leur temps à donner dans l'infrastructure. Mais il n'y a aucun risque. Une banque doit prendre des risques, financer les petites et moyennes entreprises pour créer de l'emploi. Quand vous allez là-bas et que vous dites à la BOAD ou n'importe quelle banque locale que vous voulez faire une petite casserole pour servir la ménagère ou la femme du marché, on vous met dehors. On vous met dehors. C'est ça le problème. Quand vous mettez le paiement par le téléphone portable que fait le Kenya aujourd'hui parfaitement et pratiquement sans frais, on vous met dehors. Ou sinon vous êtes ponctionné par ces banques, je ne vais pas citer les noms, vous les connaissez, qui vous ponctionnent, l'Europe, l'argent, l'épargne des pauvres Africains, c'est inacceptable. Je ne parle même pas de Western Union qui carrément, dont la capitale est en Autriche d'ailleurs ici à Vienne, et qui carrément dans une zone CFA, qui n'est pas une monnaie, mais qui appartient à la zone euro, nous n'avons pas à payer. Pourquoi nous payons jusqu'à 30% de transfert ? Voilà des discriminations économiques fondamentales que la CDAO a refusé d'attaquer. C'est une honte pour cette CDAO, pour sur le plan monétaire et financier.
On finira avec ce coup de gueule, Yveko Amaizo. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. On retiendra que pour beaucoup, il s'agit d'une intégration théorique et que sans volonté politique, pas de vision ni de développement. Merci encore, Yveko Amaizo. Je rappelle que vous êtes consultant, président du think tank Afrocentricity. Bonne journée à Vienne. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Merci à Vali Azercel et à Monsieur Diallo qui patientait au standard. On se retrouve demain pour une nouvelle édition du Journal des Auditeurs. Réalisation Antoine Cruchon, Rokia a réceptionné vos appels. À demain.